Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Samuel Bernard, mais aussi Tiphaine de Rocchini, Clémence Salazar, Juliette Gadeau, réalisée par Charlotte Roux et mise en onde ce matin par David Federman. Et cette semaine dans Culture Monde, donc, on va parler de bonne chère et s'intéresser à la haute gastronomie, celle des grands chefs, des grands restaurants. Mardi, nous nous pencherons sur les grands chefs français et étrangers qui s'exportent un peu partout dans le monde. La gastronomie, évidemment, n'échappe pas au phénomène de mondialisation et les tocs en sont l'un des vecteurs. Mercredi, nous évoquerons la question des cultures alimentaires et de la standardisation réelle ou supposée des goûts. Jeudi, enfin, direction le Pérou, le nouvel Eldorado gastronomique du continent sud-américain. Mais aujourd'hui, on va se pencher sur l'évaluation des restaurants, petits et grands, depuis les journalistes culinaires aux applications telles que TripAdvisor, en passant bien sûr par les grands classements, Michelin, Gotemio, ou plus récemment le 50's Best, ou encore la liste TripAdvisor, Michelin, quand la critique conduit la gastronomie. C'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Il nous fallait, je pense, depuis quelques années, un classement qui répercute le travail de chacun. Et je pense qu'on l'a avec la liste. C'est 1000 chefs. 1000 maisons dans le monde entier. Donc c'est 1000 qui sont gardées sur les milliers qui existent dans le monde entier. Lui, ce qu'ils veulent qu'on vive, qui est le consommateur dans nos restaurants, c'est se régaler, c'est recevoir une émotion partout dans le monde où on mange bien aujourd'hui. C'est pour ça que la liste, elle est importante. Parce que la liste, elle ne référence pas qu'une catégorie de chef, une catégorie de restaurant, une catégorie de gastronomie. Elle référence toute la gastronomie mondiale.
Alors l'intérêt du classement de la liste, c'est que ils sont arrivés à faire de l'objectif avec du subjectif. Lorsqu'un ou des restaurants réunissent suffisamment de notations et de commentaires positifs, s'il y a 100 commentaires qui convergent et qui disent que tel ou tel restaurant est bon, ça doit être quelque part vrai. Les convives qui fréquentent nos maisons sont des gens qui voyagent, ils ont une certaine idée du paysage gastronomique mondial. Et à chaque fois, ces gens-là disaient « enfin un classement sérieux ».
Enfin, un classement sérieux de grands chefs, Arnaud Lallemand et Guy Savoie, à propos de la liste, ce palmarès, nouveau palmarès, il y a effectivement tout juste 2 semaines, le lundi 5 décembre 2016, en présence de nombreux grands chefs français et étrangers. Jean-Marc Ayrault et l'ambassadeur Philippe Faure ont présenté la liste, ce classement culinaire promu par le ministère des Affaires étrangères des 10 000 meilleurs restaurants au monde. La liste se donne pour objectif de supplanter d'autres grands classements, tels que le 50's Best, publié chaque année depuis 2002 par le très britannique Restaurant Magazine, à qui l'on pouvait reprocher, outre la polémique autour de sa méthode d'évaluation, de remettre en cause la suprématie française en la matière. Alors, quelle critique conduit la gastronomie? Quels sont les effets de la démocratisation de la critique initiée notamment par TripAdvisor? Comment s'adaptent les restaurants? La haute gastronomie est-elle exemple des nouvelles logiques de l'irréputation? Et quelle place reste-t-il pour les guides traditionnels comme le Michelin? Qu'en est-il des critiques eux-mêmes? Comment est-ce qu'ils s'adaptent à ce nouvel environnement? Comment les journalistes gastronomiques se font-ils une opinion des restaurants qu'ils évaluent et ces évaluations se font-elles dans un environnement propice à l'objectivité? Voilà un certain nombre de questions qu'on va se poser ce matin. Pour ce faire, on a invité justement un critique gastronomique, c'est François-Régis Gaudry. Bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin.
Merci.
Vous êtes donc critique gastronomique à l'Express, vous animez l'émission, l'excellente émission sur France Inter, On va déguster, c'est le dimanche à 11h, n'est-ce pas?
C'est ça.
Mais aussi très très bon sur Paris Première, à vos côtés, à nos côtés, en duplex depuis Grenoble, Sidonie Nolin, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous. Vous êtes maîtresse de conférence à Sciences Po Grenoble. Vous êtes chercheuse au laboratoire des sciences sociales de Grenoble. On va vous retrouver dans quelques instants. Je vais commencer peut-être avec François-Régis Gaudry. Depuis l'année dernière, on a ce classement qui propose ce palmarès des 1000 meilleurs restaurants au monde. La liste, il y a quelques jours, donc on a publié la nouvelle édition, la deuxième édition. C'est le chef Guy Savoie qu'on entendait installé à l'hôtel de la Monnaie à Paris qui est arrivé premier avec une note de 99,75 sur 100. S'il vous plaît. Mais il y a d'autres, évidemment, pays qui tirent leur épingle du jeu. On retrouve, par exemple, plus de 116 restaurants japonais, 113 restaurants en France, mais aussi la Chine ou encore la Suisse. Je crois qu'il y a une quarantaine de restaurants du côté de la Suisse. Ce palmarès, il a été lancé en 2015 par l'ambassadeur Philippe Faure à l'initiative du ministère des Affaires étrangères. Et d'ailleurs, la dernière liste a été révélée en présence de Jean-Marc Ayrault. C'est dire l'importance de la chose, François-Régis Gaudry. Ce genre de classement, c'est du sérieux. C'est même assez étonnant de se dire que le ministère des Affaires étrangères consacre autant de temps et d'énergie à un classement qui peut quand même nous paraître futile. Il s'agit quand même seulement de restaurants.
Je pense qu'il y a une bonne et une mauvaise nouvelle dans l'histoire. La bonne nouvelle, c'est que le pouvoir en France se réapproprie à nouveau la gastronomie comme un potentiel soft power au service de son image, de son prestige. La gastronomie est un vecteur essentiel de l'image de la France dans le monde, et l'a toujours été historiquement. Et je trouve que de la part de Laurent Fabius, de lancer à nouveau cette idée de gastrono-diplomatie, c'était l'expression qu'il utilisait il y a 2 ans, on peut y voir effectivement une bonne chose.
Certains critiques considèrent que c'est peut-être trop de place par rapport à d'autres questions plus essentielles. On pense évidemment à la Syrie beaucoup en ce moment.
Absolument.
Mais enfin,
absolument.
Voilà, c'est une vraie question.
Moi, j'aurais tendance à dire que l'un n'empêche pas l'autre, et que le Quai d'Orsay peut être actif effectivement sur la Syrie, et puis actif aussi éventuellement sur la promotion de notre gastronomie. Après, le problème, c'est la méthode. On a un peu le sentiment que cette fameuse liste, qui a été dévoilée pour sa deuxième édition par Jean-Marc Ayrault début décembre, ça fait un peu figure d'offensive diplomatique et surtout de réponse du berger à la bergère par rapport effectivement au classement que vous avez cité, ce fameux classement anglais des World 50 Best, qui est véritablement contesté dans sa méthodologie. On parle même, il y a des langues qui se délient, on parle même de corruption, de lobbying intensif, il y a quand même une marchandisation de la gastronomie avec effectivement des sponsors qui sont là à l'affût et qui tentent quand même à transformer la gastronomie en une espèce de vaste terrain de sport. Certains ont qualifié d'ailleurs le World 50 Best de FIFA de la gastronomie, c'est tout dire, avec des groupes agroalimentaires qui essayent effectivement...
C'est mérité selon vous?
Oui, moi je le dis d'autant plus facilement que j'ai vécu les choses de l'intérieur, le World 50
Best.
Oui,
vous avez été membre du jury,
absolument,
si on peut dire.
Oui, il a été fondé effectivement, comme vous le disiez, par le magazine Restaurant en 2002, et j'ai été les 5 premières années membre du jury. Il y a 27 jurys dans le monde, en tout ça fait 1000 votants. Et chaque votant est censé voter pour les 5 restaurants qu'il a préférés dans l'année, avec comme autorisation de voter pour un seul restaurant de son pays, et sinon on est obligé de voter pour des restaurants étrangers. Le seul problème, c'est qu'il n'y a aucune preuve qui doit être fournie en fait par les votants des restaurants qu'ils ont visités. Donc du coup, en fait, on vote davantage pour le restaurant dont on a entendu parler plutôt que pour le restaurant qu'on a vraiment visité. Et ça, c'est vraiment un problème, me semble-t-il, déontologique, dans la mesure où il faut plutôt voir le World 50 Best comme une espèce de baromètre du buzz, et pas véritablement comme un classement du premier au moins bon restaurant. Ça me semble un petit peu contestable.
Oui, et puis peut-être préciser à propos de ce classement qu'il est sponsorisé par San Pellegrino,
absolument,
du groupe Nestlé, ce qui peut poser un petit problème effectivement d'indépendance, voire de subjectivité.
Évidemment. Moi, je pense que la gastronomie, c'est vraiment devenu du sport à haut niveau, avec toutes les dérives du sport à haut niveau, c'est-à-dire effectivement des sponsors, des athlètes, des stars qui sont financés à grands frais par des marques agro-industrielles. Si San Pellegrino est dans l'affaire, c'est pas pour rien. Ils veulent imposer leur marque d'eau minérale dans les grands restaurants, tout simplement pour conquérir de nouveaux marchés, profiter de l'image des chefs. La liste, qui est la réponse française à ce classement, qui a effectivement un impact médiatique absolument colossal, c'est le classement anglais, est une mauvaise réponse à un mauvais classement, me semble-t-il. C'est-à-dire qu'on conteste un classement anglais avec un classement français qui est tout aussi contestable.
Mais attendez, on nous dit que c'est une méthodologie rigoureuse, objective et transparente.
Le problème, c'est que effectivement, ceux qui ont...
Je parle de la liste, là.
Ceux qui sont à l'origine de cette liste, effectivement, prétendent qu'elle repose sur un algorithme mathématique qui est censé compiler, synthétiser les notes de 400 guides, des sites de partage d'avis dans 135 pays. Vous faites dire ce que vous voulez à un algorithme, en fait. C'est ça, la réalité. Le problème, c'est que je pense pas que les mathématiques puissent être un secours, une aide pour juger la gastronomie. La gastronomie, c'est bien plus que des critères strictement objectifs et qui sont analysables par la science. Je pense que c'est une affaire de culture, c'est pas seulement, encore une fois, une affaire de classement de 1 à 1000. C'est pour ça que je suis assez sceptique par rapport à cette offensive.
Et donc, en gros, à vous entendre, on a en fait sorti notre propre classement, un peu à l'instar de ce qui se fait du côté des universités avec le classement Shanghai, qui est lui aussi très critiqué. Et comme de par hasard, la gastronomie française s'en sort très bien.
Comme par hasard, comme vous le dites, la gastronomie française s'en sort très bien. J'ai rien contre Guy Savoy, j'apprécie plutôt sa cuisine. Il se trouve qu'il est avec son restaurant juste en face de l'Académie française. Il est effectivement numéro 1 de cette liste. Je suis pas sûr qu'il y ait un vrai sens à ce palmarès.
Et puis de l'autre côté, si on regarde 50's Best Restaurant, justement, cet autre classement britannique dont vous parliez, en 10 ans, aucun chef français n'arrivait premier du classement. Donc là aussi, d'ailleurs, vous pensez quoi? Vous pensez que c'est mérité? Que là aussi, c'est le signe signe d'un manque d'objectivité ?
Absolument pas. Je considère que la gastronomie française est en très grande forme, qu'il y a une énergie créative énorme, que la gastronomie française est encore le point d'ancrage indispensable et notamment la plateforme indispensable pour tout chef dans le monde pour apprendre la cuisine et apprendre les bases techniques. Le seul problème, c'est que les chefs français se prêtent peut-être un peu moins facilement aux chefs espagnols, aux chefs du nord de l'Europe ou aux chefs américains ou anglais à effectivement cette espèce de communication à outrance. Le problème, dans les, si vous prenez les 10 premiers chefs des World 50 Best, vous avez beaucoup plus de chefs qui passent leur temps dans des avions à essayer d'aller vendre leur restaurant, éventuellement à s'arroger les votes de certains votants influents dans des pays étrangers,
que dans leur cuisine,
qu'à travailler dans leur propre cuisine. Et là, ça commence à me poser un vrai problème.
Si, Dany Nolin, je voudrais vous entendre peut-être sur la question des classements, et puis ensuite on verra avec vous, on s'intéressera à cette figure de l'attaché de presse, mais d'abord sur cette question du classement, si, Dany Nolin, vous êtes d'accord pour dire que cette question de l'objectivité, de la transparence de ces classements est assez largement à nuancer.
Oui, mais alors ce qui est intéressant avec les classements, c'est effectivement que ces classements sont toujours très contestés, mais il y en a de plus en plus dans tous les domaines, comme vous l'avez dit, aussi bien pour noter les universités que pour noter les grands chefs. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est l'usage qu'on en fait, que font... Enfin, effectivement, ces classements sont très très critiqués, que ce soit les 50 best ou maintenant la liste qui aussi prête le flanc à certaines critiques. Et pour autant, on en parle chaque année à la sortie des 50 best. Ça crée une sorte de d'émulation et de un grand nombre de discours journalistiques aussi sur ces classements qui créent ensuite des effets sur les restaurants eux-mêmes en termes de fréquentation et de notoriété. Donc, en fait, la critique, c'est pas un si gros problème que ça pour le classement, dans la mesure où la critique participe aussi du fait qu'on médiatise ces classements et qu'ils deviennent des références, quand bien même on sait qu'ils sont faits de manière plus ou moins rigoureuse et objective.
Si on regarde un peu les principaux, j'allais dire, classements mondiaux, justement deux références, celui qui reste la référence parmi la référence, c'est le Michelin quand même, hein, si, Dany Nolin.
Oui, alors le Michelin qui a fondé toute sa notoriété aussi sur sa procédure et sur son caractère rigoureux dans l'évaluation des restaurants avec l'anonymat, le paiement des additions et l'évaluation par des professionnels qui sont issus de la profession. Donc il y a une forme de confiance dans le classement qui s'est fondée là-dessus initialement et qui aujourd'hui est remise en cause par la question aussi du développement de la démocratisation de la capacité à juger, qui est plus seulement le fait des professionnels de la profession, ni même des journalistes, mais aussi du grand public. Et des...
Oui, via évidemment les nouvelles technologies de l'information et de la communication. On va en parler, François-Régis Gaudry, ça reste quand même Michelin la référence. Il y en a d'autres, hein, parce qu'il y a aussi un classement américain qui est très important, qui est Zagat Survey.
Absolument, il y a effectivement le Zagat, mais alors c'est intéressant le phénomène du Zagat outre-Atlantique, puisque c'est, si vous voulez, les sites de partage d'avis avant l'heure. C'est-à-dire
Exactement.
Qu'avant Internet, l'idée c'est que on compilait les notes des lecteurs, qui envoyaient tout simplement leur notation sur un restaurant dans une petite enveloppe. Ensuite, on faisait la moyenne des notes, et ça permettait de faire un classement, et ce guide continue d'ailleurs
c'est
à marcher.
C'est la critique participative avant l'heure.
Absolument, ouais. et sans les moyens numériques, et ça c'est très intéressant, et ça montre quelque chose aussi, c'est qu'aux États-Unis, peut-être qu'effectivement, l'expertise en matière de critique gastronomique est plus éparpillée, peut-être plus démocratisée. Alors qu'en France, effectivement, on s'en réfère encore, et pour des raisons historiques, parce que la France a inventé la figure du critique gastronomique, en général, on s'en remet, pour son avis sur les restaurants, à des personnes incarnées, à des experts, à des gens dont c'est le métier. Et ça a toujours été valable. C'est pour ça que, d'ailleurs, la critique gastronomique en France se porte encore très bien. Pour en revenir juste au Michelin, le Michelin a contribuer à véritablement même façonner notre paysage gastronomique depuis sa naissance au début du XXe siècle. Le guide Michelin aujourd'hui est un petit peu considéré comme en perte de vitesse, même s'il reste bien vivant et très important, notamment aux yeux des chefs, qui chaque année suent à grosses gouttes pour savoir s'ils vont avoir ou pas un deuxième macaron, un troisième macaron, si au contraire ils vont être rétrogradés. Et ce qui est intéressant dans le cas du Michelin, c'est que je pense que le Michelin a pris le bon pli, en tout cas le pli de la mondialisation, c'est pas d'ailleurs forcément un jugement de valeur, mais en tout cas, le guide Michelin qui pourrait paraître comme un petit peu vieillissant en France, parce qu'effectivement ses ventes diminuent, ne serait-ce que parce que le papier est en crise, en revanche à l'étranger, là pour le coup il y a un impérial à un esprit conquérant du Michelin qui est assez impressionnant.
Ouais, et quand il discute... s'étendre, et on parlera tout à l'heure avec un autre invité, Benjamin Joanneau, de son arrivée du côté de la Corée du Sud,
oui.
Ça marque effectivement ce que vous
et
êtes
puis,
en train
de... Et puis il y a quelques années, il était au Japon, et aujourd'hui, les chefs japonais s'y réfèrent vraiment et ont envie aussi d'entrer dans le jeu de cette méritocratie du Michelin, cette méritocratie à la française.
Alors, cette figure justement du critique gastronomique un peu à la Michelin, on l'a vu aussi, elle a été incarnée au cinéma, souvenez-vous.
J'aimerais passer ma commande, s'il vous plaît. Ma commande, s'il vous plaît. Canard aux pêches en aiguillette. Et avant toute chose, une eau minérale. Oh, mon eau minérale.
Allez vite mettre des glaçons dans le zoo du 5. C'est un du chemin.
Une eau minérale.
Mais non, c'est pour le 5. C'est un du chemin.
Écoutez, j'ai jamais demandé tout ça, mais c'est en plus.
Le du chemin, c'est le 5.
Oh, mon eau minérale.
Je crois que ça s'est bien passé.
On a eu de la chance. On a fait le maximum.
Heureusement qu'on l'avait reconnu.
Oh, mais moi, le Duchemin, je l'ai repéré à 100 mètres. Ils peuvent plus m'avoir.
Ouais, les Duchemins, on les reconnaît. Louis de Funès, en directeur du guide Duchemin. J'allais dire en guide Michelin, mais évidemment, c'est... Évidemment, le guide Michelin qu'il faut y voir.
Bien sûr.
Fer de lance de la lutte contre la malbouffe. Louis de Funès, venu tester incognito et à ses frais un restaurant. Sidonie Nolin, vous avez écrit un article intitulé, je vais citer... Qui prescrit aux prescripteurs place et rôle des attachés de presse dans la construction de la prescription des critiques gastronomiques. Vous y rappelez un principe de base pour que les critiques, pour que des critiques puissent manger sans avoir à payer pour obtenir des informations sur un restaurant ou un chef, il faut passer par un attaché de presse dont vous avez recueilli un certain nombre de témoignages. Première réflexion, il y a quand même un problème déontologique journalistique de base là. Sidonie Nolin.
Alors oui et non. Oui, effectivement, de l'extérieur, on a l'impression que les journalistes s'en réfèrent à des communicants qui ont un intérêt dans les articles qu'ils vont écrire. Et non, dans la mesure où les journalistes aussi le rationalisent comme une manière d'avoir accès à de l'information, sachant qu'eux travaillent sous des contraintes de temps, ils ont peu de temps pour travailler et aussi peu de moyens pour payer leur repas au restaurant et leur déplacement dans les restaurants. Et donc c'est vu comme un pis-aller la plupart du temps par les journalistes qui, en fait, vont essayer de maintenir leur déontologie en contrôlant leurs paroles et en essayant de limiter l'influence des attachés de presse en gardant que le côté avantageux économiquement. Alors, ce qui est... oui.
Allez-y, continuez, je vous en prie.
Oui, ce qui est quelque chose de... C'est une relation qui est compliquée à gérer, c'est aussi une relation humaine entre deux personnes qui crée des formes d'obligations tacites. Hein. C'est pas seulement le fait de donner une invitation contre un article en retour, mais il y a des relations interpersonnelles qui créent cette forme d'obligation. Et ça a une influence à plusieurs niveaux. Ça a une influence sur le type de restaurant que vont tester les journalistes, puisque tous les restaurants n'ont pas une attachée de presse ou un attaché de presse. Donc,
parce que ça coûte cher, évidemment.
Tout à fait, oui. C'est environ 2000 euros, je pense, pour un restaurant, enfin, à l'époque où j'ai fait mon enquête, d'avoir 2000 euros mensuels pour l'emploi d'une attachée de presse.
Mais si, Denis Nolin, je voudrais savoir en quoi l'intervention concrètement de l'attachée de presse peut influencer le jugement d'un journaliste gastronomique, et puis je passerai la parole à François-Régis Gaudry. Sidonie Nolin.
Alors, elle l'influence de plusieurs manières. Elle l'influence, effectivement, comme je l'ai dit, par l'éventail des restaurants qui sont testés. On ne va plus dans n'importe quel restaurant, mais dans ceux qui ont une attachée de presse ou un attaché de presse. Ça a une influence aussi dans ce qui est regardé dans le restaurant, c'est-à-dire que les journalistes disent on s'intéresse moins à des questions comme le prix, par exemple, puisqu'on ne connaît pas forcément le prix de ce qu'on va manger, puisqu'on est invité. Donc, on regarde ce critère-là, mais on y est moins directement sensible. D'autre part, la question du service, où il y a quand le journaliste est connu, enfin, quand le restaurateur sait que le journaliste est dans son établissement, le service va être un peu plus attentif, comme on l'a entendu dans l'extrait. Et par conséquent, les journalistes le savent et vont moins juger cette dimension-là en sachant qu'elle est un peu perturbée par rapport à une situation de client lambda. Et puis, ça va influencer enfin ce qui est dit, le contenu de la critique. Alors là, c'est tout le travail de l'attaché de presse d'arriver à faire percevoir ce qui est intéressant à évoquer dans ce restaurant-là, dans ces
Vous dites que l'attaché de presse oriente le regard du journaliste.
Tout à fait, oui. C'est une partie de son rôle dans le cas où le déjeuner ou le dîner se passe en présence de l'attaché de presse.
François-Régis Gaudry.
Je crois que le tout, c'est de s'imposer tout simplement une autodiscipline. D'abord, la présence des communicants et des attachés de presse n'est pas l'apanage du journalisme gastronomique. Vous inviteriez un journaliste cinéma ou un journaliste politique, il est à peu près soumis à la même dérive de la communication. Après, il faut tout simplement s'imposer effectivement des règles, une déontologie. Moi, à titre personnel, c'est comme ça que je pratique mon métier. Les attachés de presse me sont utiles, très clairement. Elles m'apportent régulièrement, quotidiennement, de l'information. Aujourd'hui, un restaurant qui a un peu d'ambition, qui a un peu les moyens, avec des investisseurs derrière, c'est-à-dire en gros des budgets suffisamment confortables pour effectivement faire appel à une attachée de presse, eh bien les attachés de presse ont le mérite de vous informer de l'ouverture d'un restaurant. Ensuite, tout dépend de la façon dont vous décidez de pratiquer votre métier. Il y a effectivement des journalistes qui se laissent gentiment endormir par une attachée de presse, qui cèdent évidemment aux invitations, puisque les attachées de presse, elles arrivent avec des gros clignotants en vous disant « venez évidemment déjeuner dans tel restaurant avec qui vous voulez ». Moi, évidemment, je ne mange pas de pain là. C'est pas une façon de critiquer mes confrères, mais en tout cas, je décide d'aller au restaurant en mon âme et conscience, sans accepter aucune invitation, en réservant sous un faux nom, en payant systématiquement mon addition, et je me sens, et je le revendique, et je revendique ma liberté d'écriture, ma liberté de ton, je me sens tout à fait libre d'écrire ce que je veux sur le restaurant.
D'accord. Alors après, il vous arrive donc de faire des mauvais papiers sur les restaurants ?
Mais plus assez régulièrement.
Non, parce que ce qu'explique Sidonie Nolin dans son papier, mais c'est étayé par une véritable enquête, c'est qu'en réalité, il y a un accord un peu tacite, c'est-à-dire quand on a été invité par une attachée de presse.
Évidemment.
Un restaurant,
on se sent redevable de quelque chose.
Et du coup, on ne fait pas de mauvais papiers.
Et c'est on renvoie l'ascenseur. Alors, le problème, je ne veux pas jeter la pierre et je ne veux pas juger mon milieu, parce que par ailleurs, il y a des confrères dans d'autres journaux que l'Express, qui est le mien, qui travaillent très bien. Mais ce qui se passe en fait, c'est qu'on assiste très clairement à une paupérisation du métier. Vous connaissez la crise de la presse et la crise des médias traditionnels. Il y a de moins en moins de budget, il y a donc de moins en moins de notes de frais. Moi, l'Express. Mes notes de frais, si vous voulez tout savoir, pour aller au restaurant chaque mois, j'y vais à peu près 5-6 fois par semaine. Non, mais je vous le dis très clairement parce que je suis transparent sur la question. Ouais. C'est quand même 3000 euros de notes de frais pour aller au restaurant. Bon, bah, il se trouve que l'Express, effectivement, m'accorde ce budget.
C'est le prix de votre indépendance.
Absolument, c'est le prix de mon indépendance.
Mais après, et de votre objectivité.
Absolument. Mais simplement, il y a des rédactions qui, effectivement, considèrent que c'est plus prioritaire et n'ont plus les moyens de financer un journaliste gastronomique. Donc, le journaliste à qui on demande effectivement des colonnes chaque semaine ou chaque jour, se débrouille un peu comme il peut, et effectivement on assiste alors à des pratiques que j'estime un peu plus déviantes, quoi.
Oui, c'est-à-dire il y a la question des moyens, mais aussi la question du temps en réalité.
Bien sûr.
Sidonie Nolin, je voudrais vous entendre et puis peut-être revenir sur les débuts de ces pratiques-là, parce qu'il n'y a pas toujours eu des attachés de presse pour les restaurants. À quand ça remonte tout ça ?
Alors. Pour l'histoire des attachés de presse, effectivement, c'est quelque chose qui s'est développé dans tous les secteurs, pas seulement dans la gastronomie, surtout depuis les années 90 à peu près. Auparavant, alors il y a d'autres manières d'avoir accès au restaurant gratuitement sans passer par les attachés de presse, c'est simplement de passer par les chefs directement. Donc la naissance des attachés de presse, c'est une forme de division du travail entre le chef qui s'occupe plutôt de la cuisine et puis de la gestion de son restaurant s'il est propriétaire, et puis quelqu'un qui est spécialiste de la communication. Mais il n'empêche que dans certains restaurants qui n'ont pas d'attaché de presse, ces fonctions d'invitation des journalistes et d'accompagnement des repas peuvent être prises en charge par les chefs. Donc c'est pas quelque chose de radicalement neuf, simplement c'est quelque chose qui se développe. Et les journalistes, en contrepartie, développent aussi des stratégies pour maintenir leur indépendance tout en recourant aux attachés de presse, puisque comme l'a dit François-Régis Gaudry, c'est pas forcément un choix, enfin c'est souvent imposé par les rédactions qui ne financent pas des repas.
Mais il y a même l'idée, si je peux me permettre, effectivement les attachés de presse sont là pour nous livrer des informations qui nous intéressent. Moi très régulièrement je suis informé de l'ouverture d'un restaurant, ça doit arriver peut-être une fois sur trois dans les critiques que je publie dans l'Express, c'est une attachée de presse qui m'a informé de l'ouverture d'un restaurant. Tout le jeu, justement, est peut-être d'essayer de sortir aussi des mouvements un peu moutonniers, parce que vous savez que quand une attachée de presse envoie un mail ou une mailing list d'une centaine de journalistes gastronomiques, l'idée est peut-être aussi de prendre un peu la tangente, de prendre un chemin de traverse, d'aller faire un restaurant, d'aller visiter un restaurant qu'on a la fierté d'avoir découvert par des biais un peu détournés. Et tout le jeu aussi, et peut-être l'intérêt de notre métier, c'est aussi de jouer au chat et à la souris avec les attachés de presse. Donc, encore une fois, tout est question de relations. Il faut s'imposer des règles et ne pas céder à toutes les tentations.
Alors, il y a peut-être évidemment ces dernières années, cette critique gastronomique qui s'est ouvert, qui a trouvé un nouveau terrain de jeu, c'est évidemment Internet. Désormais, tout le monde peut donner son avis sur tel ou tel restaurant, pour le meilleur, mais aussi pour le pire.
Salut tout le monde, salut les clients de restaurants, les consommateurs, les, comment on pourrait dire ça, les, les législateurs et puis surtout Monsieur TripAdvisor en personne, parce que c'est à toi que je vais m'adresser, Monsieur TripAdvisor. Alors je voudrais te dire un truc, si tout le monde peut raconter ce qu'il veut sur ton site de référencement, moi pourquoi pas, après tout, je sais que tu contrôles pas grand chose et que tout le monde peut raconter des salades ou pas, etc. Mais c'est pas ma question. La question là, c'est tout d'un coup je me suis aperçu d'un truc en fait hier, c'est que lorsque on met mon adresse et que tu utilises mon adresse, et bien sur ton site, quand je vais sur ton site, je m'aperçois que moi, je ne suis pas dit que j'ai de la place chez moi, mais par contre, j'ai à côté, en dessous de ton truc, j'ai des restaurants similaires où je pourrais réserver. Alors, je me dis, tiens, chez moi, tu ne peux pas réserver. Alors, il peut trouver une table chez des restaurants similaires. Mais ces restaurants similaires, Coco, c'est que sur ton site, on ne dit pas qu'ils sont à la fourchette. Donc, il y a une filiale de toi, là, ou qui prend 2 euros par couvert et puis qui demande au restaurateur de s'affilier pour filer un petit peu de pognon pour faire des rabais. Allez, salut, à bientôt.
Voilà, on entendait Xavier de Namur, qui est restaurateur, pas content, qui dénonce cette pratique, créant évidemment une concurrence déloyale avec ses partenariats via, en l'occurrence, ce site La Fourchette, qui propose aux clients des avantages. Ça peut aller jusqu'à, je crois, moins 30% sur les repas. C'est absolument énorme. C'est évidemment un important manque à gagner pour les restaurateurs. C'est vrai, François-Régis Gaudry, que les internautes, sans doute pas forcément, mais les critiques ont un impact absolument énorme. Une mauvaise critique, elle peut très rapidement ruiner la réputation d'un restaurateur. Et on voit que cette arrivée de la critique, disons, participative, je pense à TripAdvisor, à La Fourchette, mais il y en a peut-être d'autres, Yelp et d'autres encore, c'est une véritable révolution pour le monde de la critique gastronomique. Absolument. Pour les restaurateurs, évidemment, aussi. Mais...
Oui, le métier a muté, le métier a évolué. D'abord, il s'est adapté à une vie gastronomique qui a également changé. Et c'est vrai que l'arrivée aussi des nouveaux moyens de communication et d'internet a totalement transformé mon métier. Je serais pas aussi radical que Xavier de Namur, mais c'est vrai que ça pose de sérieuses questions. En fait, l'arrivée de TripAdvisor, qui est peut-être le site de partage d'avis le plus connu, mais il y en a beaucoup d'autres, ça correspond en fait tout simplement à une ubérisation de mon métier. C'est-à-dire que désormais, on peut considérer que quand on est client lambda et qu'on va souvent au restaurant, eh bien, on peut y aller un peu de sa critique, avoir soi-même aussi un petit peu d'influence en donnant son avis sur TripAdvisor. Le problème, c'est que si l'intention est plutôt bonne, moi j'ai absolument rien contre, on évoquait Zagat qui pratiquait un peu la même chose sans les moyens d'internet, mais le problème c'est effectivement quand ça dérape un peu.
Comment est-ce qu'on peut faire pour mettre en place, disons, un système de contrôle de ces commentaires, de ces critiques?
Eh ben, ça paraît malheureusement, assez difficile. Je pense qu'en fait, il faut utiliser TripAdvisor là encore, avec un certain recul. Et je pense que la meilleure façon, de toute façon, de choisir une table pour réserver pour une occasion particulière, c'est tout simplement de croiser les sources, référer effectivement au site de partage d'informations. Je pense que une note dans TripAdvisor peut donner une certaine idée d'un restaurant, car si vous avez effectivement une critique un petit peu violente, agressive ou excessive, qui parfois même peut frôler la diffamation, il y a quand même eu des internautes sur TripAdvisor qui se sont retrouvés en procès avec des restaurateurs. Si vous prenez, comme c'est des sites de partage qui ont une influence énorme et qui sont surtout qui ont un nombre de participants vraiment colossal, bah vous vous rendez compte en fait qu'en lissant à peu près l'ensemble des notes, vous vous retrouvez avec un nombre d'étoiles, puisque c'est en système d'étoiles qu'il fonctionne, on va dire relativement fiable à 70%. Après, encore une fois, il faut faire la part des choses et je pense qu'il faut compléter son avis par d'autres sources, peut-être des guides plus traditionnels que vous avez cités, comme le guide Michelin ou Guémio, qui font leur travail sérieusement, avec une vraie méthodologie éprouvée depuis des décennies. Parfois, on s'en remet également à l'avis d'un critique gastronomique dans un journal. Je pense qu'il faut pas prendre TripAdvisor au pied de la lettre. Faut pas être aussi radical en considérant que ces sites de partage sont nuls et non avenus et doivent être rayé de la carte. Et en même temps, il faut effectivement les utiliser prudemment. Par contre, la solution, puisque les fondateurs de ces sites de partage essayent de réfléchir sur les méthodes pour accroître leur fiabilité, c'est compliqué. C'est très compliqué. Même la modération de messages. Dans quelle mesure un message que vous postez sur un restaurant relève d'une sorte de vengeance ou de parce qu'il y en a aussi qui lâchent leur nerf effectivement sur les réseaux sociaux, et ça c'est valable d'ailleurs pour tous les commentaires qu'on trouve sur les forums, etc. C'est quand même compliqué de faire le tri, quoi.
Et on a l'impression que c'est difficile à légiférer. Sidonie Nolin, votre avis sur cette arrivée, bien sûr, du commentaire participatif, même si François-Régis Gaudry rappelait à juste titre que finalement ça existait déjà, puisque Zagat Survey, c'était déjà un peu ça. On allait rechercher, on allait compiler les avis des clients à l'époque. Ils n'étaient pas encore internautes, mais c'était déjà un peu ça. Sidonie Nolin, c'est vrai que c'est une révolution pour le monde de la critique gastronomique.
Alors oui, mais la baisse de pouvoir de la critique avait déjà commencé avant l'arrivée de ces sites. Enfin, j'ai fait une enquête il y a à peu près 10 ans dans le milieu de la critique gastronomique, donc les sites étaient déjà développés, mais sans doute pas autant qu'aujourd'hui. Et déjà, les journalistes témoignaient d'une baisse de leur pouvoir de prescription, avec une anecdote qui est assez symptomatique. C'est dans les années 70, Goemio avait fait une critique positive d'un restaurant, et ils ont eu un procès de la part du restaurateur parce que trop de gens étaient venus dans le restaurant. Et les critiques me disaient, mais aujourd'hui, plus jamais ça n'arriverait, parce qu'on n'a pas du tout ce pouvoir-là de remplir ou de vider des restaurants. Alors, la question, c'est sur qui, en fait, agit TripAdvisor. Et j'ai des collègues, Jean-Samuel Buscar, Marie Trespeuch et Kevin Mellet, qui ont fait une étude sur ces questions-là, et qui montrent qu'en réalité, ça joue surtout sur les restaurants moyens de gamme. En fait, les restaurants très haut de gamme, étoilés et autres, sont assez peu sensibles aux critiques sur TripAdvisor, puisqu'ils ont une clientèle qui est stable, on va dire. Et inversement aussi, les restaurants qui sont dans des lieux très touristiques, qui ont de toute manière, qui auront des clients, quelles que soient les critiques, sont aussi assez peu sensibles à ces critiques-là sur Internet. Et en fait, ce qui va jouer, c'est pour les restaurateurs qui viennent de s'implanter, les nouveaux restaurants, ou qui sont dans des quartiers qui n'ont pas une clientèle captive, ou qui sont sur des segments moyen de gamme où il y a une forte concurrence.
Ouais, mais en réalité, c'est vrai, ça, François-Régis Gaudry, ça c'est une chose aussi que j'ai remarqué, mais j'imagine que vous aussi, c'est que l'un des phénomènes qu'on a vu émerger, disons qu'avec cette démocratisation de la critique gastronomique, c'est une forme de renouveau de la plus petite gastronomie, ces petits restaurants qui font de la bonne cuisine, simple, ces petits bistrots, ça, peut-être que c'est eux finalement qui tirent leur épingle du jeu de ce phénomène, non ?
Oui, vous avez raison, surtout effectivement, comme le précisait Sidonie, quand vous êtes un peu excentré ou quand vous êtes dans une région un peu lointaine, là effectivement les sites de partage sont une très bonne solution pour vous offrir un petit peu de visibilité. Notre paysage gastronomique a clairement muté, les genres, les registres culinaires ont évolué, il y a la grande cuisine étoilée, même la cuisine de palace, mais désormais il y a une offre de restauration très intéressante à Paris et en région qui concerne, comme vous le dites, les petits bistrots, même la cuisine de rue qui connaît un dynamisme absolument colossal avec des influences qui viennent du monde entier.
Sidonie Nolin, allez, encore une petite question avant d'aller du côté de la Corée du Sud. On a dit, ce guide Michelin, c'est quand même la référence mondiale en termes de critique gastronomique, mais on voit qu'il y a un effort aussi pour ouvrir aussi là aux commentaires participatifs, parce que je crois que depuis 2012 maintenant, il y a un site internet sur lequel les clients peuvent mettre eux aussi des notes et peuvent laisser des commentaires. C'est ça le modèle de demain, Sidonie Nolin, c'est-à-dire un modèle un peu hybride avec, disons, des critiques professionnelles, historiques, et puis aussi les clients qui peuvent participer à l'évaluation. C'est ça, on mélange un peu tout, Sidonie Nolin, ça serait ça ?
Oui, on mélange un peu tout, mais en fait, malgré tout, la critique professionnelle n'est pas complètement dissoute dans cette démocratisation de la critique. En fait, on se rend compte sur des sites, les sites participatifs, les notes généralement sont très bonnes, sont assez peu discriminantes. La moyenne, je crois que sur TripAdvisor, c'est 4 sur 5 en termes d'étoiles pour les restaurants. Donc, de fait, c'est assez peu discriminant et surtout, c'est aussi assez... Enfin, il y a une inégalité très forte de participation. Il y a beaucoup de gens qui vont poster une seule critique et il y en a quelques-uns qui postent, qui sont des consommateurs réguliers et qui vont poster beaucoup de critiques. Et en fait, les sites tendent eux aussi à mettre en valeur ces critiques-là. Donc des amateurs qui sont quand même des amateurs assez assidus et qui en fait reprennent les codes de la critique professionnelle. Donc on voit ça aussi bien sur la critique cinématographique que sur la critique de restaurant. Donc en fait, progressivement, la visibilité des critiques est d'autant plus forte que les amateurs sont plus proches des professionnels. Donc il y a un maintien en fait des critères de jugement des professionnels, quand bien même la critique amateur joue aussi un rôle.
On parle cette semaine de gastronomie. Aujourd'hui, la liste TripAdvisor, Michelin, quand la critique conduit la gastronomie. On est avec Sidonie Nolin du Plex depuis Grenoble et François-Régis Gaudry, qui est critique gastronomique à l'Express et qui anime cette émission tous les lundis sur France Inter. On va déguster. On va prendre la direction de la Corée du Sud.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Et oui, puisque le mois dernier, le Guide Michelin a lancé une édition. En Corée du Sud, 24 restaurants se sont vus décerner des étoiles. Deux établissements ont même obtenu les fameuses 3 étoiles.
La richesse de la sélection que nous avons ici à Séoul confirme que la Corée du Sud émerge comme l'une des destinations culinaires les plus excitantes et dynamiques au monde. Et nous sommes heureux de vous présenter ce que nous avons découvert ici à Séoul. Dans la catégorie des 3 étoiles, maintenant veuillez accueillir sur scène le restaurant Gohan. Venez sur scène, s'il vous plaît.
Ouais, c'est Gaon, ce restaurant traditionnel qui propose une cuisine coréenne. L'élégance et la finesse de la cuisine proposée par Gaon ont réellement conquis nos inspecteurs, a dit Michael Ellis, le directeur international des guides Michelin. Et puis plus généralement, il a affirmé à propos de la cuisine coréenne, je pense que cette cuisine est largement perçue comme le joyau caché de la cuisine internationale. Et heureusement, Michelin est là pour nous montrer ce joyau de la cuisine internationale. On va retrouver Benjamin Joanneau depuis Séoul. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci infiniment d'être avec nous ce matin en direct de Séoul. Vous êtes anthropologue, enseignant-chercheur à l'université de Rongik. Vous êtes associé à l'EHESS et vous êtes un observateur attentif, très attentif de la culture gastronomique à Séoul. Vous avez notamment écrit un article intitulé « Une vague de kimchi, la gastronomie face à la mondialisation entre soft power et menace ». Première question extrêmement simple et en même temps complexe. Pourquoi Michelin se lance en Corée du Sud et comment le monde de la gastronomie coréenne perçoit l'arrivée de ce critique aussi réputé qu'est Michelin, Benjamin Joanneau?
Alors, la première question est à la fois simple et compliquée parce que l'arrivée de Michelin peut sembler logique puisqu'on a présenté ces dernières années la cuisine coréenne, la gastronomie coréenne comme effectivement le joyau caché qu'il faut découvrir. Il y a certainement aussi des effets de mode puisqu'on s'est un petit peu lassé du sushi japonais et il est normal de se tourner vers ce que l'on connaît moins qui est cette cuisine coréenne. En même temps, il faut voir que derrière l'arrivée du Michelin, il y a un travail très fort des autorités coréennes, en particulier des derniers gouvernements. Le président Lee Myung-bak, il y a quelques années, avait mis beaucoup d'accent sur le développement de cette partie de la culture coréenne à l'étranger, ce qu'on a appelé la K-food, qui est pour Coréa. Donc à côté de la K-pop, des K-drama, il y avait donc la K-food que l'on souhaitait mettre en avant. Et pour cela, il était important, en termes de reconnaissance sur la scène internationale, d'avoir un Michelin, tout comme les Japonais, tout comme Hong Kong. Et il y avait un véritable désir de reconnaissance, à vrai dire. On a parlé d'une sorte d'investissement de la part du gouvernement coréen dans le guide vert Michelin afin d'attirer le guide rouge, car au début le guide rouge Michelin ne souhaitait pas faire un volume sur Séoul, disant qu'il n'y avait pas assez de restaurants de très haute qualité, de haute cuisine, de haute gastronomie, et que donc le guide aurait été trop mince. Ce qu'il est au final, d'ailleurs. Ouais. C'est surprenant.
Ouais, vous avez raison de rappeler que cette gastronomie, elle fait partie finalement d'une politique d'un certain soft power coréen. Il faut quand même rappeler que la Corée, elle a été colonisée pendant de longues années par le Japon, de 1910 finalement à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, la Corée du Sud doit finalement vivre, s'imposer dans un contexte régional difficile, avec évidemment une Chine aux ambitions gigantesques, avec un Japon voisin aussi qui est là et qui est dont la culture et l'économie dépassent largement ses propres frontières. Et donc, Séoul doit aussi se faire sa place. Et la culture, c'est l'une des cartes qui sont jouées et la gastronomie, elle participe évidemment de la construction de cette image d'un pays fort, d'un pays inventif, d'un pays créatif. Vous parliez tout à l'heure de K-pop, cette musique spécifiquement coréenne, de la K-food. Il y a évidemment tout ce phénomène de l'Hallyu, c'est-à-dire cette vague coréenne et la gastronomie coréenne participe de tout ça. Mais quand même, vous avez l'air de dire quand même, Benjamin Joanneau, que cette arrivée de Michelin en Corée du Sud, elle est un petit peu prématurée. Pourquoi ?
À vrai dire, la scène coréenne au niveau de la gastronomie est peut-être dans une période de transition et dans une période, pourrait-on dire, d'immaturité. Je pense que c'est ce que les rédacteurs du Michelin avaient senti peut-être à l'époque. À vrai dire, le concept même de haute gastronomie, de grande cuisine, est arrivé assez récemment. Pierre Gagnaire a été le premier chef étoilé à ouvrir un restaurant de ce type en 2008. C'était hier. Nous avons beaucoup de petits restaurants extraordinaires qui représente ce qui fait la beauté, à mon sens, de la cuisine coréenne, qui est une cuisine bourgeoise, une cuisine également rurale. Mais malheureusement, cela fait très longtemps que la cuisine de cour, que toute la tradition de cuisine aristocratique, a été perdue. Donc il fallait redécouvrir ce que voulait dire cette haute gastronomie dans ces codes si particuliers que l'on connaît et qui n'existaient pas ou plus en Corée. Et donc je pense qu'il était un petit peu tôt pour pour faire venir un guide qui a quand même de très hautes attentes.
Et oui, et d'ailleurs, c'est peut-être pas un hasard. Je parlais tout à l'heure de la période de la colonisation, cette cuisine royale qui aujourd'hui est aussi bien notée du côté de la Corée du Sud. C'est aussi une manière finalement de faire revivre cette période monarchique qui était celle que vivait la péninsule avant l'arrivée, bien sûr, des colons nippons. François-Régis Gaudry, vous restez avec nous, hein, Benjamin Joanneau. François-Régis Gaudry, sur ce cas de la Corée du Sud, il y a plusieurs questions. C'est un, finalement, quel est l'intérêt pour Michelin d'aller dans un pays comme la Corée du Sud ? Je ne suis pas certain que les touristes français iront en voiture jusqu'en Corée du Sud. Ça fait un petit peu loin, parce que c'était quand même l'origine, finalement, de ce projet-là. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
D'abord, le Michelin a une volonté impérialiste, et cette volonté impérialiste s'est toujours manifestée depuis le début du guide. Je rappelle quand même que ça fait déjà maintenant quelques décennies que le guide Michelin est implanté dans la vieille Europe, en Italie, en Angleterre. Le Michelin a planté son drapeau un peu partout autour de la France, et puis ensuite, effectivement, a élargi son champ de conquête en allant du côté du Japon. On en a beaucoup parlé médiatiquement, du côté effectivement des États-Unis et du côté de Séoul. Alors après, on sait pas, et de la Corée, on sait pas vraiment dans quelles conditions effectivement se pratique le choix des marchés où le Michelin a décidé de planter son drapeau. Je crois qu'il y a des conditions d'ailleurs plus ou moins occultes. Benjamin Joanneau a parlé effectivement des budgets colossaux de certains gouvernements, que certains gouvernements consacraient à la promotion de leur gastronomie. C'est le cas de la Corée actuellement, ça a été le cas il y a quelques années de l'Europe du Nord, qui a considéré que la gastronomie était un très bon argument pour faire venir des touristes. Ça a été le cas il y a quelques années, on se souvient de la cuisine moléculaire espagnole. Évidemment, le gouvernement, par des budgets colossaux, a vraiment contribué à mettre en lumière les grands chefs espagnols. Après, moi, j'aurais tendance à dire, il se trouve que je suis allé en reportage à Séoul au printemps dernier. J'ai été assez bluffé par le dynamisme gastronomique que j'y ai trouvé. Et notamment, une gastronomie pratiquée par des jeunes chefs qui ont fait leurs armes, notamment en France, mais également dans d'autres pays, en Italie, en Espagne ou en Europe du Nord, à Copenhague, et qui ensuite ont décidé de revenir au pays en réinterprétant leur saison, leurs propres produits, à travers des techniques d'avant-garde. Il y a évidemment une part d'imposture dans le travail de certains chefs, et il y a en même temps des propositions et une offre gastronomique
exceptionnelle, extraordinaire, qui sort de l'ordinaire.
Et j'ai envie de dire que ces jeunes chefs tirent la gastronomie traditionnelle vers le haut, c'est-à-dire cette gastronomie populaire basée notamment sur des techniques de fermentation absolument éblouissantes.
C'est le fameux kimchi.
Le fameux kimchi, ce chou fermenté et pimenté, effectivement, qui est très intéressant et qui est là-bas une pratique incroyable. Mais vous avez également des genres gastronomiques comme la cuisine végane ou la cuisine végétarienne des temples bouddhistes qui est tout à fait prodigieuse. Donc peut-être effectivement une certaine jeunesse ou un manque de maturité dans l'accomplissement d'une haute cuisine à la coréenne, et en même temps, à mon avis, les bases d'une aventure gastronomique très intéressante.
J'imagine que vous aussi, Benjamin Joanneau, vous avez été bluffé par la cuisine coréenne. Quand Pascal Barbeau, qui est quand même chef 3 étoiles, restaurant parisien La Strance, a débarqué pour la première fois en Corée du Sud. Il a ressenti, lui, un formidable coup de foudre. Il dit « Ce fut un choc. Tant de produits exceptionnels, de goûts méconnus, de techniques culinaires ancestrales qui nous semblent aujourd'hui d'une modernité incroyable. » Vous avez, vous aussi, ressenti ce coup de foudre pour la cuisine locale ?
Bien sûr. J'ai beaucoup travaillé sur la cuisine coréenne parce que, justement, elle est passionnante, même si elle est aussi la source de beaucoup de malentendus de la part de nos chefs, de nos critiques, de nos voyageurs français qui viennent en Corée pour la première fois, parce que quand on est face à quelque chose d'aussi différent, on peut parfois s'enthousiasmer pour des choses qui, en fait, une fois qu'on les connaît un petit peu mieux, s'avèrent être peut-être un petit peu moins intéressantes, voire, tout à l'heure vous parliez de chefs qui peuvent peut-être un petit peu tricher par l'esbrouf, par le côté un peu spectaculaire. Il y a aussi de cela. Alors, il y a de tout. C'est vrai que c'est une cuisine qui est extraordinaire, qui doit trouver sa place sur un échiquier international qui est compliqué. Et tout à l'heure, vous parliez, je crois que c'était très important, de cet aspect de colonisation. Moi, j'aurais aimé revenir sur cela parce que je pense qu'on est au cœur du problème du Michelin en Corée, où le Michelin, là, j'ai le sommaire sous les yeux, je vois finalement que les Coréens ont utilisé ce Michelin pour, en fait, à la fois accéder à la scène internationale, puisque le guide est aussi en anglais et en coréen, mais aussi pour décoloniser un petit peu leur scène gastronomique. Autrefois, sur le Blue Ribbon, qui est le guide coréen, le TripAdvisor, sur le Zagat, les 10 meilleurs restaurants de Séoul, c'était des restaurants japonais. Dans le Michelin, il n'y en a qu'un. Il n'est même pas sous l'étiquette Japon, il est sous l'étiquette Sushi. Je trouve est une manière de recoréaniser totalement la scène coréenne. Donc on voit comment un impérialisme de base qui est celui du Michelin, comme vous disiez tout à l'heure, peut être retourné pour aider l'impérialisme coréen.
Ah ouais, c'est étonnant finalement ce Michelin qui est d'une certaine manière à évacuer l'héritage nippon sur la péninsule coréenne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct, Benjamin Joanneau, depuis Séoul. Un grand merci. On va revenir du côté de l'Europe. On va parce que pendant vous parliez tout à l'heure de l'Espagne, François Régis Gaudry, pendant les 30 dernières années, l'Espagne a connu évidemment une petite révolution en matière de gastronomie, en particulier depuis que de nombreux chefs de la région ont obtenu la première place des 50's Best, ce classement du restaurant magazine dont on parlait tout à l'heure, et c'est tout particulièrement la région basque qui est le moteur de ce mouvement. On va retrouver José Marie Aizeza, qui est directeur du centre culinaire basque et qui est jury du prix culinaire lancé par ce même centre de formation, prix qui inaugure cette année sa première édition. On va le retrouver, José Marie Aizeza, il nous explique le principe de cette récompense, déjà surnommée prix Nobel de la gastronomie. Il est au micro de Samuel Bernard.
Well, the main purpose is to promote and recognize.
Alors, le but principal est de soutenir et de promouvoir des chefs qui se sont engagés dans des initiatives qui améliorent la société par la gastronomie. On a constaté ces dernières années que de plus en plus de chefs se sont engagés dans différentes initiatives qui concernent la gastronomie, mais aussi des enjeux d'éducation, de santé, de développement durable, d'économie, et qui ont travaillé à améliorer la société à travers ces initiatives. Voilà ce que nous souhaitons promouvoir. Maria Fernanda de Giacobbe a eu ce prix parce que, tout d'abord, nous recherchions des résultats. Pas seulement des chefs qui avaient de beaux projets, avec de belles perspectives, mais quelqu'un dont les travaux ont prouvé des résultats réels. Alors, Maria Fernanda de Giacobbe a été impliquée dans des initiatives sociales, à partir du cacao, un cacao indigène produit au Venezuela. Et elle a promu des initiatives avec d'autres êtres humains. Elle a créé de nombreuses petites compagnies qui travaillent dans le cacao et avec des êtres humains. Elle a formé, je ne me souviens plus des chiffres exacts, mais aux alentours de 1500 femmes au Venezuela, donc elle a créé de la richesse et des emplois. Elle a donc de véritables résultats économiques, sociaux, voilà ce que nous souhaitions promouvoir.
Donc ce prix a été soutenu par de nombreux grands chefs comme Ostaria Francescana, John Rocca, René Redzepi ou Ferran Adria, le pape de la cuisine moléculaire. Pourquoi est-ce que cette initiative a eu un tel écho à votre avis? Pourquoi est-ce que il a semblé bon à ces grands chefs d'offrir leur soutien?
L'idée venait de ces chefs eux-mêmes. On a un bureau international qui est intégré effectivement par Juan Rocca, mais aussi René Redzepi, Gaston Acurio, Dan Barber des États-Unis ou encore Michel Brass de France. De nombreux chefs qui ont été des leaders dans la transformation de la cuisine et probablement aussi parce qu'ils ont une véritable vision du futur. L'idée donc vient d'eux et on a décidé ensemble du prix. Et aussi, ils étaient impliqués dans le prix en tant que jury. Ils ont donc choisi le gagnant de cette année.
Le Centre culinaire basque dont vous êtes le directeur est une institution qui vise à promouvoir à la fois l'innovation gastronomique mais également à acter le leadership de la région basque en la matière. Y avait-il aussi l'idée à travers ce prix de défendre l'identité basque ?
Oui, cette idée est présente dans la philosophie de ce prix. Tout d'abord, parce que nous pensons que les chefs et la cuisine ont transformé le Pays basque, sa culture, son identité, en raison de la révolution opérée par les chefs basques pendant les 30 dernières années. Nous avons voulu utiliser ces transformations, cette évolution, pour l'amplifier à échelle mondiale. Deuxièmement, c'est assez évident que ma réponse à votre question est oui, parce que nous sommes une institution académique, Nous avons à peu près 500 étudiants et nous voulons aussi utiliser ces exemples pour les inspirer, pour leur montrer qu'en gastronomie, ils ont de nombreuses options, de nombreuses opportunités professionnelles. Ils peuvent travailler comme chef, dans la recherche, dans l'innovation, mais ils peuvent aussi s'engager dans l'entrepreneuriat social, dans des projets sociaux. Ce sont des bons exemples pour les générations futures.
José Marie Aizeza, donc directeur du Basque Culinary Center et membre du jury du Basque Culinary Prize, au micro de Samuel Bernard, François-Régis Gaudry.
Je crois qu'on ne peut pas s'empêcher de penser que ce centre culinaire basque est une vitrine de plus pour faire la promotion des chefs espagnols. Et en même temps, je trouve que l'intention de ce prix est plutôt bonne, c'est-à-dire que il consiste effectivement à tourner les chefs qui sont parfois un peu tournés sur leur nombril et parfois un peu dans leur tour d'ivoire, à s'intéresser à des préoccupations écologiques, économiques, sociales dans le monde entier. Et bien ce prix peut avoir tout à fait son utilité. Il y a désormais des chefs qui s'engagent. On évoquait Dan Barber qui a été l'un des lauréats. Voilà un chef américain qui effectivement s'engage, a été conseiller aux questions alimentaires de Barack Obama. Et si le chef est le nouveau porte-drapeau d'une alimentation qui doit tenir compte effectivement de l'avenir de notre monde, de la protection de l'environnement.
C'est plutôt une bonne chose.
C'est plutôt une bonne nouvelle.
Bon, mais en tout cas, effectivement, on est là encore dans la gastro-diplomatie dont on parlera aussi demain. On en a parlé un petit peu aujourd'hui, mais on poursuivra demain, évidemment. Merci beaucoup, en tout cas, à tous nos invités. D'abord, Sidonie Nolin, qui était avec nous en duplex depuis Grenoble. Je remercie d'ailleurs le technicien qui a permis de faire ce duplex, Vincent Elie, qui était à ses côtés. Un grand merci à vous, François-Régis Gaudry.
Merci beaucoup.
Je rappelle que vous êtes critique gastronomique à l'Express, mais qu'on peut vous entendre aussi chez nos amis de France Inter le dimanche à 11h. C'est On va déguster. Et puis, je crois même qu'il y a une déclinaison, parce qu'il y a un livre.
Oui, il y a un livre qui est sorti en coédition avec Radio France l'an dernier.
C'est un genre d'encyclopédie en
c'est
réalité.
C'est ça, un encyclopédie qui est le prolongement sur le papier de mon travail sur les ondes.
Merci infiniment en tout cas d'avoir été avec nous et d'avoir ouvert cette semaine consacrée à la gastronomie qu'on va poursuivre jusqu'à jeudi prochain avant de s'attaquer au sérieux, c'est-à-dire au fait. Merci beaucoup François-Régis
Gaudry. Merci.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
On va retrouver Brice Couturier pour son tour du monde des idées. Bonjour Brice.
Bonjour Florian. Alors,
voilà, je suis perdu évidemment, ça y est, je retrouve mes papiers. Nous y voilà, c'est lundi, Brice. La coutume, c'est de dresser, c'est vrai, en fin d'année, un état du monde. Qu'avez-vous trouvé, Brice, à ce sujet sur les sites de vos think tanks préférés?
Il y a deux façons de conclure une année, Florian. On peut en récapituler les péripéties afin de désigner celles qui nous apparaissent rétrospectivement comme décisives. Choisir les faits qui nous semblent dignes de figurer dans de futures annales. Or, de nombreux exemples du passé attestent que les contemporains sont rarement conscients de l'importance relative des événements historiques. Qui, en décembre 1936, aurait admis parmi les tournants les plus décisifs de cette année-là la remilitarisation de la Rhénanie par le chancelier allemand ? Faire le bilan de l'année écoulée, c'est courir de grands risques d'erreur. Mais que dire de l'autre manière de boucler une année, celle qui consiste à se hasarder à faire des prévisions? Au vu des coups de théâtre dont le rythme s'est accéléré au cours de l'année 2016, coup d'État en Turquie, vote du Brexit, élection de Trump, échec de Renzi, la plupart des observateurs estiment que 2017 va nous réserver bien d'autres surprises. La seule certitude partagée, c'est que nous sommes entrés dans une période de grande incertitude. C'est même le temps de l'hyper-incertitude, selon Barry Eichengreen, un important économiste américain. Il fait un parallèle avec l'année 1977, lorsque Kenneth Galbraith publia son fameux livre « Le temps des incertitudes ». À cette époque, rappelle Eichengreen, le monde occidental se débattait avec la stagflation, l'Europe était engagée dans un processus d'intégration et personne n'aurait misé un dollar sur la Chine ou les pays du Sud qui ont depuis émergé. Aujourd'hui, l'Union européenne semble se défaire et certains des émergents qui ont tiré la croissance mondiale sont aujourd'hui en panne. Jimmy Carter, le président, en 1977, avait rétabli la stabilité monétaire en nommant le sage Paul Volcker à la tête de la Fed. Personne ne sait exactement ce que va décider Donald Trump, même si dans l'immédiat, il ne semble pas désireux de remplacer Janet Yellen à la fin avant la fin de son mandat qui est prévu en 2018. Mais Nouriel Roubini, l'inventeur des fameux signes noirs, ces événements à la fois rares et imprévisibles qui ont des conséquences énormes, Roubini donc fait observer que Trump est un homme venu de l'immobilier. Or, dans ce métier, on apprécie que les taux d'intérêt demeurent faibles afin que les acheteurs de maisons puissent s'endetter. Or, la Fed vient de commencer, comme on le sait, à relever ses taux d'intérêt afin d'accompagner le programme de relance budgétaire du futur président. Mais les marchés, selon Roubini, puniraient toute hausse trop importante du dollar, car une telle remontée pénaliserait les exportations américaines. Elles auraient en outre sur l'emploi aux États-Unis des conséquences que Trump fera tout pour éviter. On doit donc s'attendre à des taux directeurs en hausse, certes, mais une hausse modérée.
Bon, bah, nous voilà un tout petit peu moins d'incertitude. Pourtant, l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, Brice, inquiète beaucoup ses futurs partenaires étrangers, notamment.
Oui, c'est ce qu'écrit Carl Bildt. L'ancien ministre suédois des Affaires étrangères rappelle qu'il avait tweeté cet été « Si Trump est élu, ce sera tous aux abris ». Une telle éventualité était alors hautement improbable, mais avec un tel personnage aux commandes de l'Amérique, imprévisible et soupe au lait, il va falloir s'habituer à vivre dans un monde qu'un simple tweet présidentiel pourra déstabiliser. Son entretien téléphonique avec la présidente de Taïwan démontre qu'à ses yeux, rien n'est acquis. Puisque depuis 1979, le gouvernement américain, on le sait, avait renoncé à toute relation diplomatique avec l'île et s'était rallié à la doctrine de Pékin, une seule Chine. En agissant ainsi, Trump entend visiblement renégocier à sa guise certains accords et contrats passés par ses prédécesseurs, en particulier le deal sur le nucléaire iranien. Chaque fois qu'une administration nouvelle s'installe à Washington, écrit Carl Bildt, les diplomates savent qu'il faut s'attendre à une période de rodage, mais cette fois-ci c'est différent. Les choses ne retourneront pas à la normale en quelques mois. De nombreux signes noirs sont à prévoir. Dans un monde redevenu instable, les tournants que s'apprêtent à prendre les États-Unis ajoutent un élément supplémentaire d'incertitude. En temps normaux, écrit Carl Bildt, je le cite, le réseau des relations internationales offre suffisamment de prédictibilité, d'expérience et de stabilité pour que les événements imprévus restent gérables et ne précipitent pas de confrontation entre les grandes puissances. Mais cette époque est terminée. Et de conclure ainsi, nous devons nous préparer aux turbulences qui pourraient bien s'emparer du monde.
L'arrivée à la Maison-Blanche d'un amateur en politique tel que Donald Trump ajouterait donc un facteur de déstabilisation supplémentaire.
Et oui, Florian, car c'est un monde qui connaît déjà de très fortes tensions depuis les guerres civiles à caractère religieux qui déchirent la Syrie, l'Irak ou le Yémen, la montée des tensions en mer de Chine ou l'agression russe contre l'Ukraine. L'éditorialiste allemand Philippe Bilski a surnommé le président américain « Mr. Unpredictable ». Tout ce qu'on peut augurer en l'état actuel des choses, c'est qu'il sera un partenaire difficile pour la Chine, écrit-il. Pour le reste, Florian, eh bien, on est dans le vague. Incertitude, ce sera le mot de l'année 2017.
Il est très probable que ce mot soit celui de l'année 2017. On en reparlera ici, bien sûr, à ce même micro. D'ailleurs, on projette la première semaine de janvier de faire justement une semaine consacrée à toutes ces incertitudes qui vont peser sur le monde, Brice Couturier. Parce qu'effectivement, les débuts d'année, les fins d'année, c'est toujours propice au bilan et aux projections. Merci beaucoup, Brice, d'avoir été avec nous ce matin. On peut bien sûr vous retrouver sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr.